Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Bernard de Cotigny.
Angélus du pape ce dimanche, place Saint-Pierre, noir de monde malgré un temps maussade. Pour sa catéchèse avec l'évangile du jour, la rencontre de Jésus et la Samaritaine, le pape nous rappelle que la miséricorde est plus forte que tous les préjugés. Un appel urgent pour mettre fin à la violence au Soudan du Sud, assurer l'aide humanitaire et promouvoir la paix, c'est ce que demande le pape François dans un message adressé au diocèse de Juba. Message de condoléances du pape pour la mort d'Ignace Zaka Ier Ivas, le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Enfin, l'invité du dimanche de Sœur Catherine Aubin, Jean-Claude Larcher, actuellement considéré comme l'un des principaux théologiens orthodoxes. Malgré la pluie donc et le temps maussade, ils étaient des dizaines de milliers de personnes, une fois encore ce dimanche midi, place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Le pape François, pour sa catéchèse, est parti de l'évangile du jour, qui nous parle de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, près d'un puits où la femme se rendait chaque jour pour y puiser de l'eau. Ce jour-là, elle y rencontra Jésus, assis, fatigué par un voyage. Jésus lui demande à boire. Le pape a tenu à expliquer que par cette requête, Jésus tente d'abolir l'hostilité qui existait à l'époque entre les Juifs et les Samaritains, d'abolir aussi les préjugés à l'encontre des femmes. La soif de Jésus, a poursuivi le pape, était surtout une soif de rencontrer une âme rendue aride. Jésus avait besoin de rencontrer cette Samaritaine pour lui ouvrir le cœur. Il lui demande à boire pour mettre en évidence la soif qui était en elle. La femme est touchée par cette rencontre. Elle adresse à Jésus des questions profondes que tous nous avons en nous, mais que souvent nous ignorons. Nous aussi, nous avons tellement de questions à poser, a souligné le pape, mais nous ne trouvons pas le courage de les adresser à Jésus. Que le carême s'avère cette période idéale pour regarder à l'intérieur de nous-mêmes, faire émerger nos besoins spirituels les plus authentiques et demander l'aide du Seigneur dans la prière. Que l'exemple de la Samaritaine nous invite à nous exprimer ainsi. « Donne-moi, Seigneur, de cette eau qui me désaltérera pour l'éternité. » Et le pape de conclure, « La miséricorde est toujours plus forte que tous les préjugés. » Un appel urgent, je vous le disais dans le sommaire de ce magazine, pour mettre fin à la violence au Soudan du Sud, assurer l'aide humanitaire et promouvoir la paix, c'est ce que demande le pape François dans un message adressé au diocèse de Juba. Le texte signé par le secrétaire d'État, le cardinal Pietro Parolin, a été lu ce dimanche matin par le cardinal Peter Turkson, président du Conseil pontifical Justice et Paix, qui a célébré la messe dans la cathédrale de Sainte-Thérèse, dans la capitale sud-soudanaise, au terme d'une visite de 5 jours dans le pays. Le compte-rendu d'Antonino Gallofaro.
Sans la paix, il ne peut y avoir de développement. Ce sont les mots du pape transmis à l'archevêque de Djouba, Monseigneur Paulino Lukudu Loro. Le Soudan du Sud vit depuis décembre dernier au rythme d'un conflit ethnique qui oppose les forces gouvernementales du président Salva Kiir à celles fidèles à l'ancien vice-président Riek Machar. Cette guerre a coûté la vie à des personnes innocentes, elle a provoqué division et elle a causé pauvreté, faim, maladie et mort, a regretté le souverain pontife, qui n'a pas oublié la situation dramatique des déplacés et des réfugiés. François appelle donc toutes les parties à mettre un terme aux violences. Il veut que celles-ci assurent l'accès à l'aide humanitaire pour les nécessiteux et cherchent sans relâche des solutions pacifiques pour faire prévaloir le bien commun sur les intérêts particuliers. Pour le pape, il est nécessaire de promouvoir la culture de la rencontre, une culture qui implique la capacité de voir en l'autre non pas un ennemi, mais un frère qu'il faut accepter et avec qui il faut travailler. Le cardinal Turkson est resté 5 jours au Soudan du Sud où il a rencontré plusieurs évêques. Il a aussi rencontré le président Salva Kiir mercredi et les membres du gouvernement auxquels il a remis le message du pape François.
Afrique toujours, 2 personnes ont été tuées et 10 d'autres blessées ce dimanche lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur des fidèles rassemblés dans une église évangélique près de la ville côtière de Mombasa au Kenya, alors même que la police affirme avoir renforcé la sécurité pour prévenir d'éventuelles attaques islamistes. Le Kenya, on le sait, est la cible d'une série d'attaques depuis son intervention militaire en octobre 2011 dans le sud de la Somalie où il a dépêché des troupes pour combattre les chebabs liés à Al-Qaïda. Transformer Internet en réseau de prières, c'est ce que propose le site hosanna.org, lancé début mars par l'association Marie de Nazareth. Ce réseau social permet à qui le souhaite de créer et partager des chaînes de prières, que ce soit pour la paix, pour la France ou pour le pape François, qui sait. Thomas Delenda est le fondateur du site. Il travaille aussi pour la Fondation pour l'évangélisation par les médias. Il nous raconte comment est né Hosanna.org.
On a une association qui s'appelle Marie de Nazareth qui a créé un centre d'évangélisation à Nazareth et qu'on recrée un peu partout dans le monde. Et cette association a un site internet et on a complètement refait ce site. On s'est rendu compte qu'il avait beaucoup de contenu théologique, intellectuel, etc., mais très peu de propositions spirituelles. Et donc, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire d'un peu plus spirituel. Et on s'est dit que ce serait génial d'avoir quelque chose autour de la prière. Et il se trouve qu'au même moment, je me suis occupé de faire produire un film pour une école en banlieue. Et pour faire produire ce film, j'ai utilisé une plateforme de financement participatif qui s'appelle My Major Company. Le concept de ces plateformes, c'est de pouvoir présenter un projet sur une page web et d'appeler les gens à donner de l'argent pour financer le projet. Et en fait, ce concept-là, il a été décliné, il se développe beaucoup sur le web depuis quelques années, il a été décliné sous différents modes, notamment les sites de pétition, donc comme Citizen Go ou Change.org, où cette fois-ci, on décrit une cause et on invite les gens à signer. Et je me suis dit, on pourrait faire un site où plutôt que de demander de l'argent ou des signatures, on demanderait des prières. Et ça rejoint d'un point de vue spirituel le concept de chaîne de prière, tout simplement. Pour l'instant, ça se fait un peu à la main, c'est-à-dire des gens envoient des mails à leurs amis, leur famille et tout pour prier pour une intention. Et donc je me suis dit, faisons un site qui permet de faciliter ça et qui permet aussi de porter des intentions publiques d'ordre général, de prier pour la France, pour la paix dans le monde, pour le pape, pour les chrétiens persécutés et de rassembler une large communauté de priants autour d'une intention de prière.
Et pourquoi donc pour vous c'était essentiel qu'il y ait donc ces différents élans de prière ?
Écoutez, je pense que c'est tout simplement une demande que Dieu nous fait depuis déjà dans l'Ancien Testament, que Jésus nous répète, que la Vierge répète à chacune de ses apparitions. Ils sont prêts à nous donner énormément de grâce, mais il faut les demander. Et donc la prière d'intercession a toujours été quelque chose de très important. Et je pense qu'à notre époque, Internet et les différents moyens de communication nous permettent de mobiliser les gens en fait, sur différents sujets. Et donc ça me paraît extrêmement important qu'on mobilise aussi les gens sur des sujets spirituels quoi, et qu'on invite les gens à prier. Parce que si on réussit avec Hosanna à rassembler une vaste communauté de priants, on peut avoir vraiment des centaines de milliers de personnes qui prient. Et ça peut aider ces gens à prier, de se savoir unis dans la prière, de savoir qu'il y a d'autres personnes avec eux, de voir des nouvelles autour de l'intention, etc. On va sûrement développer une application iPhone qui permettrait aussi peut-être de s'abonner à des rappels. Parfois, on oublie de prier, donc on pourrait avoir un petit outil qui nous aide à prier, quoi. Donc, la prière me paraît quelque chose d'absolument fondamental dans la vie chrétienne et dans la vie de l'Église. Et ça me paraît important que sur le web, il y ait cette présence de prière.
Et qu'est-ce que votre site peut apporter justement pendant ce temps de carême ?
Si vous voulez, Hosanna permet de créer une chaîne de prière pour tout type d'intention, à condition qu'elle soit, on a quand même des critères de modération, on ne va pas prier pour n'importe quoi. On peut créer une intention et ensuite animer cette intention d'une manière particulière. Donc ça veut dire que quelqu'un qui voudrait faire quelque chose de particulier pour la période de carême, mettons par exemple quelqu'un qui se dit, ok, pendant le carême, on va prier tout spécialement pour l'Ukraine pendant ces 40 jours, qui vit un temps difficile en ce moment, elle va créer une intention, elle va décrire ça, et elle va dire par exemple, pendant les 40 jours du carême, j'enverrai une petite nouvelle chaque jour, et donc les priants recevront tous les jours pendant la période de carême la nouvelle que le porteur d'intention a voulu mettre.
Je considère que les péchés les plus graves commis par les médias sont ceux qui concernent les contre-vérités et les mensonges, et ils sont trois, la désinformation, la calomnie et la diffamation. Voilà ce qu'a déclaré le pape François durant l'audience accordée samedi aux radios et télévisions d'inspiration catholique du réseau Corallo. La calomnie et la diffamation sont graves, mais le plus grave, c'est la désinformation, a tenu à ajouter le pape. Cette désinformation, c'est ne dire que la moitié des choses, celles qui nous conviennent, et ne pas dire l'autre moitié, de sorte que celui qui regarde la télévision ou écoute la radio ne peut juger correctement des choses parce qu'il n'a pas tous les éléments, ils ne lui sont pas livrés. Éviter ces trois péchés, a-t-il dit aux journalistes, la désinformation, la calomnie et la diffamation, le conseil donc du pape François à son auditoire ce samedi. Le pape François a pris avec une profonde tristesse le décès de sa sainteté Ignace Zacca Ier Ivas, le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Il a exprimé ce dimanche aux évêques, aux clergés et aux fidèles laïcs ses condoléances personnelles et la proximité dans la prière de tous les catholiques. Le pape rend hommage à cet homme extraordinaire, capable de mener un peuple à travers les moments difficiles. Pour le pape, le patriarche était un homme de dialogue et de paix à l'égard des membres de toutes les traditions religieuses. Rappelons que le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient est mort vendredi à l'âge de 81 ans. Ignace Zacca Ier Ivas était né à Mossoul en Irak en 1933 et il était depuis 1980 le 140e primat de l'église syriaque orthodoxe. Place à présent à l'invité du dimanche de sœur Catherine Aubin. Il s'agit de Jean-Claude Larcher, actuellement considéré comme l'un des principaux théologiens orthodoxes et l'un des meilleurs spécialistes de Saint Maxime le Confesseur. Son œuvre est dominée par les questions d'anthropologie et d'éthique, touchant en particulier à la santé et aux différentes formes de maladies et de thérapeutiques spirituelles, psychiques et corporelles, ainsi qu'à leur interaction. Pour traiter tous ces sujets, la réflexion de Jean-Claude Larcher fait appel à la théologie, à la philosophie, à la psychologie et à la médecine, mais s'appuie cependant de manière constante sur les écrits des pères de l'Église. Interrogé par sœur Catherine Aubin, Jean-Claude Larcher, dans ce premier volet, nous explique l'importance de la transformation spirituelle du carême chez les orthodoxes.
Jean-Claude Larcher, c'est le temps de carême en ce moment pour les catholiques, pour les orthodoxes. Quel est le grand enseignement des pères sur le carême et cet enseignement, comment est-il adaptable pour nous, pour l'homme d'aujourd'hui ?
Alors, le carême s'est toujours conçu comme un temps de préparation. En l'occurrence, nous préparons la fête de Pâques, mais aussi les grands événements de notre salut qui la précèdent, c'est-à-dire la passion du Christ et sa mort sur la croix. C'est une préparation qui est aussi un temps d'attente. Et justement, dans cette préparation qui est avant tout naturellement spirituelle, le corps est appelé à jouer un rôle, donc le jeûne et l'abstinence qui font participer le corps à cette attente à travers une faim physique qui doit se traduire comme une faim spirituelle. À travers les incidences de l'abstinence de certaines nourritures sur le corps, eh bien, nous attendons une certaine incidence aussi sur notre vie psychique et sur notre vie spirituelle. Et en général, il s'agit d'acquérir une meilleure maîtrise du corps, de reprendre possession par l'esprit sur toutes les forces du corps et de les mobiliser précisément pour ce que l'on attend vraiment du carême, c'est-à-dire une transformation intérieure. Une transformation spirituelle à travers une lutte contre les passions, à travers un progrès dans les vertus qui doivent nous amener à être plus étroitement unis au Christ.
Comment ce jeûne peut-il entrer dans notre vie psychique, transformer notre vie psychique et nous aider à voir d'autres automatismes?
Le jeûne a cette propriété de créer une faim, ça c'est évidemment son premier effet, mais cette faim affecte non seulement le corps, mais affecte aussi la vie psychique et la vie spirituelle. Donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment organiser, parce que c'est pas spontané, je veux dire, on peut être affamé ou être végétarien ou végétalien sans que ça aboutisse à un effet spirituel quelconque. Donc, cette combinaison entre le corps, l'âme et l'esprit, justement le jeûne a cette propriété de créer un certain état d'attente, un certain état de tension, mais c'est aussi quelque chose qui favorise la concentration, donc qui aide à la prière. C'est aussi quelque chose qui favorise la pénitence, parce que le carême est aussi un temps intense de pénitence. On ne peut progresser spirituellement que si vraiment on a conscience de ses fautes et de ses défauts en général, et si on a vraiment la volonté de s'en défaire et de progresser dans ce sens. Le jeûne est quelque chose aussi qui implique le corps profondément dans toute la vie spirituelle. Dans l'Église orthodoxe, nous avons ce sens de l'importance du corps dans la vie spirituelle qui se traduit par exemple dans la vie liturgique orthodoxe par une abondance de signes de croix, de prosternation qui frappe souvent les gens qui ne sont pas familiers et qui vont dans une église orthodoxe pour la première fois. Alors pendant le carême, les prosternations sont également multipliées, les prosternations jusqu'à terre qui engagent l'ensemble du corps. Et puis le corps est engagé aussi naturellement dans la prière, et spécialement dans cette prière qui nous est chère dans l'Église orthodoxe, qui est la prière de Jésus, à laquelle participent la respiration, le cœur et aussi la posture même du corps.
Alors Jean-Claude Larcher, il y a toutes ces pratiques physiques, corporelles, pour une transformation spirituelle, mais parfois, y a-t-il pas un danger de se tromper et de se focaliser là-dessus, au lieu de se focaliser peut-être sur le désir du Christ, la fin du Christ?
Oui, vous avez tout à fait raison, mais justement, le jeûne n'est jamais une pratique indépendante qui a sa fin en elle-même. C'est-à-dire que c'est une pratique qui doit s'intégrer dans l'ensemble de la vie spirituelle, c'est-à-dire que ça doit vraiment aller de pair avec la pénitence, avec la prière, les pères y insistent beaucoup, avec une lutte contre l'ensemble des passions, c'est-à-dire de toutes les formes d'attachement que nous avons à nous-mêmes et au monde, et donc ce renoncement à la nourriture qui est caractéristique du jeûne va aussi de pair avec un renoncement à tout ce qui apporte de la jouissance au sens et tout ce qui apparaît comme quelque chose qui nous attache au monde et qui nous éloigne de Dieu. Et par conséquent, c'est un plan, si je puis dire, global qui est mis en jeu au cours du carême avec, par exemple, ce renoncement à la nourriture va de pair avec un renoncement avec les distractions mondaines, avec tout ce qui peut éloigner l'homme de cet effort de concentration sur Dieu. Et par exemple, c'est habituel aussi qu'il y ait un jeûne des spectacles. On ne va pas au spectacle pendant le carême. Et donc, il y a une sorte de jeûne des sens et de jeûne également de tout ce qui peut apporter des satisfactions qui peut-être parfois ne sont pas dangereuses ou mauvaises, mais qui, si vous voulez, nous attache à autre chose qu'à Dieu. Le mot d'ordre vraiment du carême, c'est d'augmenter notre attachement à Dieu et de nous rapprocher davantage de Dieu.
Et dans cette démarche globale, est-ce qu'il y a aussi ce désir à la fois d'une meilleure connaissance de soi pour justement ce que vous disiez, se reconnaître qui on est, c'est-à-dire pécheur, et aussi un rapprochement avec Dieu, une connaissance de Dieu plus lumineuse?
La connaissance de soi, disent beaucoup de pères, consiste d'abord dans la connaissance de ses propres péchés. Et alors nous avons une très belle prière que nous récitons plusieurs fois par jour pendant le carême, qui est la prière de Saint Ephrem le Syrien, dans laquelle il y a plusieurs demandes, notamment celle-ci, « Donne-moi de voir mes péchés et de ne pas juger mon frère ». Et la connaissance de ses péchés, disent les pères, est la première étape de la connaissance de soi. Parce que si on n'a pas la connaissance en particulier de tout ce qui nous sépare de Dieu, nous ne pouvons pas non plus trouver les moyens de nous rapprocher de lui. Tant que nous restons justement centrés sur nous-mêmes et attachés sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous attacher à Dieu et nous ne pouvons pas non plus nous attacher au prochain. C'est pourquoi il y a cette idée aussi très forte dans l'enseignement des pères que la charité ou l'amour n'est pas un simple sentiment, mais quelque chose qui présuppose tout un travail de détachement par rapport à soi et par rapport au monde. Et toutes ces formes d'attachement au monde et à nous-mêmes qui sont en nous, c'est ce que nous appelons justement les passions. Et donc sans cette lutte contre les passions, et donc sans la connaissance précise des passions qui nous animent, souvent inconsciemment, nous ne pourrons pas non plus arriver à nous attacher véritablement au prochain dans l'amour spirituel, et nous ne pourrons pas non plus véritablement nous attacher à Dieu. Nous aurons peut-être l'illusion d'un amour, mais cet amour ne sera que quelque chose d'instable, ça n'aura qu'une réalité sentimentale et non pas la réalité spirituelle du véritable amour chrétien.
Parmi les grands orthodoxes que vous connaissez beaucoup, il y a l'archimandrite Sophronie que vous avez rencontré, qui est le biographe de Saint Silouane. Saint Silouane qui disait, entre autres, « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas ». Est-ce que c'est une façon aussi d'entrer dans tout ce que vous dites?
D'une certaine manière, pour rattacher votre question à la précédente, c'est vrai que quand l'homme parvient à avoir la connaissance de son péché, il prend aussi conscience, si vous voulez, de ce qu'est l'enfer. Parce que qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer, c'est tout simplement un état spirituel dans lequel l'amour de Dieu est absent, non pas parce que Dieu ne donne pas son amour, il le donne toujours et à tout le monde, mais parce que l'homme refuse cet amour ou est, par son état spirituel, incapable de le recevoir par sa propre responsabilité. Et toute la vie chrétienne, à partir du baptême qui nous remet en union avec Dieu et qui donne la possibilité d'acquérir la grâce, eh bien, toute la vie spirituelle va consister précisément à essayer de combler cette distance qui, originellement, nous sépare de Dieu. Et toute la vie ascétique consiste à nous détacher de nous-mêmes et à nous détacher du monde pour être capable d'appréhender ce don que Dieu nous fait de sa grâce, et cela de manière totale, dès l'origine, c'est-à-dire dès que nous recevons le baptême, dès que nous sommes sur la voie de cette nouvelle vie qui nous est donnée par le baptême.
Ainsi prend fin ce magazine. Retrouvez-nous sur internet au www.radiovaticana.va et sur Facebook à Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, où que vous soyez.